Bon dimanche, RVE, il est 9h.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On est particulièrement ravis de vous retrouver à une émission qui va coller en plein dans l'actualité ce dimanche. On va retrouver les pronostics de notre ami Jean-Claude pour les réunions, pour la réunion hippique de Rambouillet, cinquième réunion de la saison. Il y a le prix RVE aujourd'hui, donc surtout Jean-Claude devra nous donner les bons pronostics pour ce prix RVE. On va aussi parler tennis, hein. Il se passe beaucoup de choses du côté de Cernay-la-Ville, et notamment un toit de tennis donc open avec le président de Cernay, François Bernard. François, bonjour.
Bonjour.
Alors, on en profitera aussi pour parler de la vie de votre club pour cette saison. Mais ça y est, vous êtes dans l'épreuve phare de votre année, hein, donc le tournoi open.
Absolument, il a démarré il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, vendredi 30. Mm-hmm. Il s'étale sur 3 semaines avec les finales le dimanche 22 juin.
Oui, on avait parlé des foulées de Cernay-la-Ville la semaine dernière. Et bien, la semaine d'après, il y aura donc la finale de ce tournoi open. Donc, il se passe beaucoup de choses sur Cernay-la-Ville. Et puis, naturellement, on reviendra sur la grande quinzaine de Roland-Garros avec François Bernard, Christian Rieu aussi, qu'on est content de, une nouvelle fois d'accueillir. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
On l'avait quitté sur le rugby, hein, son autre passion, on le retrouve donc sur le tennis. Et puis, quelqu'un aussi qui est un habitué de notre micro, qui vient soit pour le tennis, soit pour l'alpinisme, c'est Hervé Guérin.
Bonjour
Hervé.
Bonjour à tous.
Voilà, donc là aussi, Hervé chez qui d'ailleurs nous irons dans 15 jours faire une émission là-bas du côté du Perret en Yvelines. Et ensuite, vous retrouverez Tribune Foot, hein, c'est Patrick Filière, le président de la section foot de Rambouillet, qui viendra tirer le bilan de la saison de son club. Et puis là aussi, on parlera de l'Eurofoot en compagnie de quelques consultants, et ce, jusqu'au 29 juin. Voilà, riche actualité sportive, donc on n'a pas de temps à perdre. On va envoyer la pub, on aura aussi la météo, puis on retrouvera notre ami Jean-Claude pour donc les pronostics de cette cinquième réunion de la saison sur Rambouillet. Voilà, alors il s'est passé beaucoup de choses hier sur Rambouillet. Nous étions en direct d'abord dans l'émission de notre ami Jean-Marc, où on a pu d'abord faire un reportage sur la journée de volley organisée dans le parc du château, qui a été une réussite pour cette première, et puis aussi pour auparavant à l'hippodrome de Rambouillet, vous parlez du raid endurance équestre du pays d'Yvelines, longue de 160 km, qui est effectivement est parti et est arrivé à l'hippodrome de Rambouillet. Et bien aujourd'hui, on va retourner à l'hippodrome de Rambouillet parce que c'est la cinquième réunion de la saison. On retrouve notre ami Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Philippe, est-ce que tout va bien?
Tout va bien, en tout cas, en plus, apparemment, la météo s'annonce sous de bons auspices.
Ah.
C'est important, hein.
Est-ce que l'hiver est terminé?
Oui, je pense quand même.
On l'espère quand même. Ah oui, c'est très important, car on est quand même... Bon, aux courses, les gens aiment bien avoir une température agréable pour se balader. En fait, l'après-midi, on est comme dehors, malgré qu'il y ait des tribunes et un hall couvert. Mais on a besoin quand même de températures agréables et de soleil. Ça, c'est évident, comme partout, d'ailleurs, dans les manifestations extérieures. C'était bien hier à Rambouillet, donc, la randonnée qu'il y a eu, le raid.
Ah, c'est très bien, très bien. En tout cas, beau spectacle. Et ouais, puis surtout, hein, des chevaux qui mettent 4 mois pour récupérer. Hein.
Ah, ben c'est quelque chose que je ne savais pas.
Oui, oui, oui. Oui, 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 avec un soin notamment de vétérinaire tout au long du parcours, et même quand les chevaux sont à la limite, on est obligé par des mesures de précaution de carrément de les stopper et de les arrêter, quoi.
C'est combien de kilomètres ?
160.
Oh. Ah oui, effectivement. Mm-hmm. Bon, eh ben nous on fera moins de kilomètres que ça. Oui. On a un beau programme à Rambouillet cet après-midi de 10 courses encore. On a 10 courses. Et on commence à 14h, on termine à 18h30. Hein. Mm-hmm. Vous venez quand vous voulez dans l'après-midi, il y a de quoi s'occuper. Il y a des animations gratuites pour les enfants, donc toute l'après-midi avec des poneys, avec une structure gonflable énorme qui est vraiment super pour les enfants. Atelier de maquillage, des petits sulkis, un petit circuit de petits sulkis. Et puis on peut également, pour les turfistes, quoi, ceux qui jouent sur plusieurs hippodromes, on peut également... Eh bien, jouer sur la grande journée de Chantilly aujourd'hui. C'est le prix de Diane à Chantilly. Donc, on joue à, comme si on était à Chantilly. En fait, à Rambouillet, on joue, quoi. C'est pareil. On voit les images et on joue. C'est du direct intégral, quoi. Très important. Voilà, Philippe.
Alors, donc, les pronostics, sans oublier, Jean-Claude, que c'est le prix RVE aujourd'hui. Donc, faut pas se tromper, hein.
Et oui, on va faire au mieux comme d'habitude. Ouais. C'est d'ailleurs la grande course de la journée, le prix RVE. Hein. Ce sera une course très très intéressante où on prendra des bonnes notes pour les réunions parisiennes. Alors on attaque. La première course, le 7, le 6 et le 2. 7, pardon, 6 et 2. Dans la deuxième épreuve, le 4, le 5 et le 18. Alors on est complet dans toutes les courses, il y a au moins 140 chevaux cet après-midi sur l'hippodrome. Dans la troisième course, le 6, le 8 et le 1. 6, 8 et 1. Dans la quatrième, le 2, le 3 et le 6. 2, 3, 6. Donc je vous rappelle que les courses se courent toutes les demi-heures aussi. Hein. Donc si vous arrivez, vous voyez, vers 14h, 15h, il n'y a aucun souci. Vous aurez encore au moins 7, 8. Dans la cinquième épreuve, 1, 2 et 10. 1, 2 et 10. Dans la sixième, 5, 6 et 4. 5, 6 et 4. Dans la septième, 8, 9 et 11. 8, 9 et 11. Et on arrive donc à la huitième, le prix de Radio Vieille Église, le prix de RVE. Alors, un lot très intéressant où on a 18 partants. Et on placera en tête le 6, c'est Anne Dupont, avec Jean-Yves Rayon, qui était un habitué de l'hippodrome de la Villeneuve, avec ensuite au 25 mètres Yves Dreux, qui fait le déplacement, un des grands drivers français, avec le 10, Oryx des Ternes. On a le 14, Only du Détroit, ensuite, et on choisit le 18, Oriolo, avec le 12, Mirande de Blary. Mirande de Blary, c'est notre dernière minute.
D'accord.
6, 10, 14, 18 et 12, pour le prix RVE.
Donc à jouer.
À jouer. Dans la deuxième, 11, 9, 11, pardon, 5 et 16, 11, 5 et 16, et la dixième aux alentours de 18h30, même si vous les voyez à 17h, hein, pas de souci, vous en verrez encore pour moins 4, le 17, le 16 et le 14. Voilà pour cette dixième course.
Très bien, Jean-Claude. Alors, on va quand même rappeler aussi que, naturellement, hein, comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui le prix de Diane du côté de Chantilly. Il y avait le Jockey Club la semaine dernière, il y a le prix de Diane. Hein, c'est un des grands dimanches aussi concernant le sport hippique.
Les deux grands dimanches de l'année, bien sûr, à Chantilly, où ils attendent 15 000 personnes, peut-être, enfin, un monde fou, quoi. Je voudrais quand même rappeler également, on va parler du prix de Diane, puis ensuite, on va parler du trophée vert.
Oui, bien sûr.
Alors, donc, le prix de Diane à Chantilly, il y a une craque. Il y a une craque qui court. Elle appartient malheureusement ou heureusement pour lui comme d'habitude, mais c'est par rapport aux autres, bien sûr que je dis ça, à son Altesse Lagacan, Sarkava. Sarkava qui est une pouliche de grande qualité. Elle a couru 4 fois, elle a gagné 4 fois. Elle fait l'objet d'épouvantail dans cette course, donc Sarkava. Mais le quintet ne sera pas dans le prix de Diane, car on n'avait que 13 partants. Il sera dans la sixième course, le prix du château de Chantilly, où je vous propose une sélection de 6 chevaux. Le 15, Bail d'Ariol. Le 5, Pal Raider. Le 6, Gno Zou Tiger. Le 2, Mondovino. Le 3, Twister. Et le 11, Allard. 15, 5, 6, 2, 3, 11. On vous me retrouvez tous les jours au 08 99 70 73 00. Tous les matins à partir de 10h. 10h, 10h30, vous faites le choix 8 et je suis en direct au 08 99 70 73 00 sur le choix 8. Voilà, Philippe.
Très bien. Alors, il y aura cette réunion du 8 juin, donc celle d'aujourd'hui. Et puis, ensuite, Jean-Claude, avant de partir en vacances, on se retrouvera à nouveau à l'hippodrome de Rambouillet dans 15 jours, le 22 juin, pour cette grande journée consacrée notamment au Trophée Vert.
Le Trophée Vert. C'est un grand plaisir que l'hippodrome retrouve le Trophée Vert. Il mérite bien, car ça fait partie des plus belles pistes en herbe de France. Le Trophée Vert, c'est un trophée qui est réservé aux meilleurs hippodromes en herbe de France, piste en herbe. Hein. Donc là, on est chez nous dans 15 jours à Rambouillet, avec beaucoup d'animation, avec beaucoup de cadeaux, avec un car PMU qui va se déplacer sur place. Et ce jour-là, c'est une grande notoriété pour la ville de Rambouillet, car ce jour-là, toute la France entière, dans n'importe quel PMU, que vous soyez à Bordeaux, à Marseille, à Lille, ou n'importe par où, vous pourrez jouer sur cette course de Rambouillet. Ça, c'est quand même un retentissement national pour la ville.
Oui, et ensuite il y aura une deuxième épreuve, je crois, PMU, ça sera
alors,
à l'automne.
Alors, épreuve PMU début septembre.
Début septembre, en fin d'été alors.
Septembre, la date, elle est pas loin, donc ça sera le 14 septembre.
D'accord, bah, le rendez-vous est pris, puis rendez-vous donc cet après-midi, Jean-Claude.
Eh bien oui, j'espère que vous allez venir nous retrouver nombreux en famille, comme d'habitude, sur l'hippodrome.
Très bien, merci Jean-Claude.
Voilà, au revoir.
Voilà, alors on va tout de suite aller du côté de la météo, savoir si effectivement, eh bien, on va avoir une belle journée à l'hippodrome de Rambouillet. Météo.
Et pour ce dimanche matin, eh bien, nous retrouvons, comme d'habitude, dorénavant, nos amis de Météo France pour un point sur la météo. Et nous retrouvons Fabien. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous.
Alors Fabien, une amélioration du temps par rapport à hier? Oui.
Une amélioration se dessine progressivement et les apparitions du soleil se font de plus en plus larges au fil des heures. L'après-midi, des cumulus circulent dans le ciel et peuvent apporter une petite averse ici ou là. Quant aux températures, elles sont à la hausse, avec des minimales qui affichent de 9 à 11 degrés, et des maximales de 21 à 23 degrés. Météo France vous souhaite à tous une très bonne journée.
Merci beaucoup Fabien, et merci à toute l'équipe de Météo France.
Ok, merci, au revoir.
Voilà. Retrouvez la météo locale sur le serveur de Météo France au 32,50, 34 centimes d'euros la minute. Météo.
Eh ben c'est bien, c'est une bonne nouvelle, non seulement pour la finale de Roland-Garros, hein, qu'on pourra suivre aussi depuis l'hippodrome de Rambouillet, et puis François Bernard pour le tournoi Open de Cernay-la-Ville, hein, on l'a dit, c'est l'événement phare de votre saison, ça a commencé donc la semaine dernière.
Absolument, oui. Et année tout à fait en plus particulière, parce que c'est la dernière année où on les fait sur les installations actuelles.
Oui.
Et parce qu'en fait, il y a un projet en cours de construction qui consiste à déplacer l'ensemble des installations derrière le stade. Mm-hmm. Et donc, cette année, on révèle un aspect un petit peu particulier, mais ça nous permettra de faire le 22 juin, on l'espère, sous une belle météo également. Une belle fête lors des finales.
Oui, parce que vous n'aviez pas été gâté ces dernières années, hein, au niveau météo, le jour des finales. Hein, je me suis dit, ça n'avait pas été terrible. Hein.
Tout à fait. Il y a deux ans, effectivement, on a dû faire les finales le mardi, le lundi et le mardi. Donc, ça avait un petit peu entamé la fête, on va dire.
Mm-hmm. Alors, François, vous allez avoir combien de cours grâce à ces nouvelles installations sur Cernay-la-Ville? Vous allez avoir des cours couverts, puis vous allez aussi avoir naturellement des cours en plein air.
Ben disons qu'on va passer en fait de 4 cours extérieurs aujourd'hui à 3 cours extérieurs plus une salle omnisport où le tennis sera bien évidemment bien représenté.
Oui, alors ça bouge beaucoup à Cernay-la-Ville, hein, parce qu'on a parlé du trail avec Bono, c'était fin avril, hein, le trail par équipe de deux, hein, Patrick Bono qui était venu nous en parler. On a eu aussi donc les foulées de Cernay, Philippe Bernard qui est venu nous parler de l'édition de la semaine prochaine, et puis donc votre club de tennis qui vit, hein, qui est très dynamique. Vous aviez combien de personnes cette saison?
On a actuellement 90 et en fin de saison on arrive à une centaine, on peut espérer.
D'accord. Des jeunes, des moins jeunes, la tranche d'âge représentée?
Bon, c'est à peu près 50-50. Dans les deux catégories, on a des jeunes qui se maintiennent bien avec plusieurs. Quasiment toutes les tranches de catégorie au niveau primaire, on va dire. Mmh. Et donc, ils nous permettent d'organiser 8 séances de cours tout au long de la semaine, quoi. Et il y a également des cours adultes, avec un renouveau également des cours féminins depuis 2 ans. Donc, ils nous permettent également c'est un aspect assez important ces dernières années, ce renouveau du tennis féminin à Cernay-la-Ville.
Ah, c'est bien. Et vos jeunes, ils viennent de Cernay ou viennent des villages avoisinants? Parce qu'il y a pratiquement des clubs de tennis un peu partout. Il y en a sur le Perret, il y en a sur Offargis, il y en a sur Chevreuse, deux sur Rambouillet. Donc, ils viennent de beaucoup plus loin ou alors uniquement sur Cernay et les petits villages avoisinants, Bullion, La Celle-les-Bordes?
Actuellement, c'est Cernay essentiellement, à 95%. Et avec les nouvelles installations, sachant qu'on est les installations en fait ont été faites dans le cadre d'un CIVU, donc auquel participent 3 autres communes, donc Senlis, Choisel et Saint-Forget.
Ah bien, oui.
Donc là, on pense effectivement qu'il y a des futurs adhérents provenant de ces villes-là qui devraient nous rejoindre.
Et donc naturellement, beaucoup vont changer dans la compétition. Est-ce que vous êtes avant tout un club formateur ou est-ce que vous êtes aussi assez porté sur les résultats? Parce qu'on est fiers quand même des résultats de son équipe quand il y en a.
Absolument, oui, non, on fait, mais on s'attache effectivement à voir les deux, même, je dirais même les trois, en rajoutant le sport loisir.
Bien sûr.
Donc, par contre, c'est vrai que cette année, on a réussi à engager beaucoup d'équipes en compétition et on a réussi à réengager des équipes jeunes. Mm-hmm. Donc, on n'avait pas pu faire l'année dernière. Donc, sur deux catégories d'âge. Donc, c'est une grande satisfaction, quoi.
Et justement, donc, si on veut venir vous rejoindre, il faut attendre maintenant la rentrée, François, ou alors on peut venir dès maintenant s'inscrire.
Pour les nouveaux, la saison n'étant pas finie, il y a des opérations passe-tennis qui ont lieu depuis début mai. Mm-hmm. Donc c'est une opération qui est initialisée par la fédération et qui permet à des tarifs très avantageux, en fait, de pouvoir jouer jusqu'à fin septembre, fin de la saison tennistique, quoi.
D'accord. Ok. Sinon, le prix d'une licence et d'une cotisation, c'est de combien chez vous?
C'est 90 euros pour les adultes et 60 pour les enfants.
Mm-hmm. Le matériel, il est finalement, somme toute, accessible, hein. On n'est pas obligé de changer de raquette tous les ans,
hein. Ah non, tout à fait. ça fait beaucoup de progrès, en particulier pour les enfants, effectivement. Même, vous pouvez démarrer le tennis avec des raquettes que vous trouvez en grande surface à des prix à 15 euros ou 20 euros, vous avez une raquette pour démarrer le tennis qui suffit largement.
Donc pour les créneaux d'entraînement, ça va être quand même super d'avoir ce court couvert, parce que on va pouvoir intensifier, doubler même les entraînements. Parce que ça pose des problèmes, c'est vrai que quand la météo est pas très bonne, ou l'hiver quand il fait froid, quand on n'a pas de court couvert, c'est un problème pour un club comme le vôtre.
Ben là c'est sûr que bon, avec la météo qu'on a connue, en particulier cette année, il y a eu beaucoup de journées de report d'entraînement. Donc là, le fait d'avoir une salle de sport couverte, ça va nous permettre effectivement d'assurer ces cours-là et surtout de permettre aux enfants de jouer dans de bien meilleures conditions. Parce que c'est vrai que jouer l'hiver quand il fait 0 degré ou le soir, et parce que les enfants jouent jusqu'à 19h30, c'est quand même pas forcément très agréable ni très motivant pour les enfants eux-mêmes. Donc je pense que ça devrait nous permettre de drainer davantage d'adhérents.
Ouais, sport numéro 2, hein, on peut dire le tennis à Cernay, après le foot. On dirait que c'était il y avait une vie sportive très très dense, très active dans ce village de Cernay. On peut dire que votre club est un des plus anciens, mais est le sport numéro 2 après le foot.
Oui, en nombre d'adhérents, ouais. Tout à fait. Oui, non, c'est vrai, c'est clair que Cernay dispose beaucoup d'associations, enfin de sections au sein de l'ASC. Donc outre le foot, le VTT, le tennis,
oui,
le
VTT,
la pétanque,
ouais. Et la pétanque, faut pas l'oublier. Voilà. Ouais.
Donc non, c'est un village très 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 très, très dynamique et très très agréable.
Oui, on a vu Monsieur Fernandez, hein, qui était venu d'ailleurs nous parler de la vie sportive la saison dernière sur Cernay, la ville. Alors votre tournoi Open, c'est la 25e édition. C'est un rituel, un classique. À quel niveau de joueur s'adresse-t-il?
Bah, à toutes, ça va effectivement des quatrième, seconde, les non classés bien sûr, hein, quatrième, troisième, deuxième série. Donc, et ce week-end entre tous les joueurs classés 15-3.
D'accord. Donc on peut encore s'inscrire. Il y en a qui voudraient s'inscrire.
Tous les classements supérieurs peuvent encore s'inscrire. Il y a encore de la place. Il y a pas de problème. Oui. Et
alors,
on les attend.
Ils s'adressent à qui et ils font quoi, François?
Aujourd'hui, en fait, cette année, nous avons deux nouveaux juges arbitres. Donc notre juge arbitre principal est Johan Piton. Donc on peut contacter au 06 24 76 42 44. Et qui est assisté de Raphaël Kayat. Et ça nous permet effectivement d'assurer dans de très bonnes conditions ce tournoi Open.
Donc des matchs qui ont lieu en semaine, le soir, ça arrive?
En semaine et le week-end. Donc en semaine, en général, c'est à partir de 17h ou 18h. Et le week-end, c'est toute la journée.
Ouais. Alors le problème, on l'a dit, hein, quand on organise un tel tournoi, c'est la météo. Tous les organisateurs ont ces préoccupations de pouvoir finir dans les temps.
Tout à fait. Effectivement, donc à cette occasion, je profite pour remercier le TC Limour, les et le TC Rambouillet, qui nous ont bien aidés le week-end dernier, en début de semaine, pendant les intempéries. Donc, je remercie grandement et je les invite dès maintenant à venir assister au final le 22 juin.
Oui, TC Limour, hein, qu'on a vu l'occasion aussi d'interviewer, puisqu'on était allé faire une émission du côté de Limour, c'était fin février, et on a vu donc l'occasion de les avoir au micro. C'est un club effectivement très actif et très dynamique, hein, qui travaille aussi en partenariat avec beaucoup de clubs de la région.
Oui, absolument. Oui. Il nous aide. Chaque année, depuis un certain nombre d'années maintenant, et on leur remercie fortement.
Alors, donc, il y a des sponsors, il y a des partenaires aussi fidèles chaque année. On peut les remercier, parce que c'est quand même facile d'aller taper aux portes, même 25 ans après.
C'est la partie délicate de l'organisation du tournoi, effectivement. C'est la recherche de sponsors qui nous permettent effectivement de, d'offrir aux joueurs des lots attrayants. Mm-hmm. Et donc, effectivement, je voudrais remercier tout particulièrement tous les commerçants, en premier, tous les commerçants de Cernay-la-Ville, mm-hmm. qui nous sont fidèles depuis de très nombreuses années, depuis le premier tournoi, si je puis dire. Et puis également, la mairie, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, le conseil général des Yvelines. Mm-hmm. Donc, puis des nouveaux venus, quelques entreprises sur les technologies nouvelles, style Antadis, qui nous aide bien mm-hmm. et qui va nous aider également pour faire notre site internet.
Quels vont être les lots, grosso modo, donc proposés durant ces trois semaines de tournoi ?
Alors, il y a des lots financiers, il y a des lots. Ça peut être en provenant de certains sponsors qui offrent des lots liés à leur activité. Donc ça peut être des lots sur des bons de réduction sur des lunettes. Ça peut être il y a des lots sur des bons d'entretien de jardin. Mm-hmm. Donc des demi-journées qui sont offertes. Ça peut être des bons pour les restaurants par exemple.
Oui.
Ou la VI par exemple offre des billets pour deux personnes pour leur spectacle de fin octobre qu'ils organisent. Donc les lots sont assez variés quand même.
Mmh. D'accord. Et puis donc le prix d'un engagement, c'est de combien ?
C'est 17 euros pour les adultes et 10 pour les enfants. Et les adultes qui participent aux deux compétitions seniors et plus de 35 sont un tarif préférentiel de 27 euros.
Oui, parce qu'on va rappeler, il y a plusieurs catégories.
Voilà,
Match open dans ce tournoi. Hein.
Absolument, il y a quatre catégories, donc hommes, dames, et dans les deux catégories, seniors et plus de 35.
Mmh. Très bien, alors c'est, je l'ai dit, l'épreuve phare, il y en a d'autres dans la saison qui vous tiennent quand même à cœur
Il y en a trois autres, on va dire, la saison démarre en général. Donc cette année, suite au déménagement, en fait, nous organiserons en septembre, juste après les inscriptions, le 21 septembre, mmh. une journée porte ouverte avec un grand barbecue sur les nouvelles installations. Mmh. Rendez-vous à
21 septembre,
le 21 septembre,
bien.
Dimanche 21 septembre,
voilà.
Et qui sera suivi par le fameux trophée RVE.
Oui, faut qu'on se réunisse d'ailleurs.
Absolument. Et après, il y a les compétitions par équipe qui démarrent. Pour nous, en janvier, on démarre avec les compétitions de plus de 35 en dames et hommes. Mmh. Et ensuite, nous réattaquons les préparatifs de notre tournoi Open et également les matchs par équipe senior qui démarrent en général en avril.
Oui, justement, le trophée Hervé, vous avez gagné le trophée des participants cette saison, François. Hein. Et vous allez tout faire pour le conserver. Hein.
Ah oui,
c'est
une épreuve auquel on est très très attaché de par l'excellent état d'esprit qui règne et qui permet de rencontrer les clubs avoisinants, toujours dans une excellente ambiance.
C'est vrai qu'on le dit, on le répète chaque année, mais il y a un véritable club Hervé qui s'est constitué lorsque vous allez participer à des réunions, à la Ligue de tennis. Maintenant, il y a une table qui se fait, qui est la table du club RVE, et on en est fiers en tout cas.
Ah bah c'est toujours avec un grand, grand plaisir qu'on y participe.
Très bien. Alors, je suppose qu'on va aussi beaucoup parler de Roland-Garros. Aujourd'hui, vous allez suivre cette finale comme ça, en filigrane
entre deux matchs. Absolument. D'ailleurs, on a installé notre clubhouse, une télé, ce qui nous permet de suivre ce qui se passe à Roland-Garros. C'est quand même l'événement majeur pour nous en France d'un point de vue tennistique. Mm-hmm. Donc, avec grande attention. Et cette finale que tout le monde attend et que tout le monde espérait, je pense, parce que c'est effectivement Roger Federer va-t-il enfin gagner Roland-Garros ? C'est la question qui nous trotte dans la tête depuis quand même quelques temps.
Il y a toujours des retombées pour des clubs comme vous, même après donc Roland-Garros, parce que maintenant, Roland-Garros, on ne le présente plus, tout le monde sait que c'est un rendez-vous incontournable de l'année sportive, mais est-ce que vous avez encore, vous, les clubs, des retombées ? Il y a un bon Français, quand il y a un bon Roland-Garros ?
C'est vrai que les retombées sont directement liées aux résultats des Français, et cette année, avec les performances de tous nos Français, en particulier chez les hommes, on peut espérer effectivement avoir quelques jeunes qui vont se tourner vers le tennis. Ils seront incités à venir nous rejoindre.
Oui, parce qu'on se rappelle l'embellie hein, des années Borg, après il y a eu un petit creux et puis c'est reparti.
Bah, disons après les années Borg, il y a eu les années Noah Lecomte.
Oui, oui, oui.
Donc
là c'était bien. Là.
Ça c'était bien, effectivement. Il y a eu un creux dans les années 90. Mm-hmm. Et puis là on sent effectivement qu'il y a quand même plein de jeunes Français qui brillent au niveau le plus haut. Et quand on voit effectivement un Chardy, un Monfils, un Liodra, mm-hmm. Ben, c'est très très encourageant pour l'avenir. Mm-hmm. On a des joueurs qui sont jeunes, qui ont vraiment en pleine progression, quoi.
Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet hein, concernant donc cette finale et cette quinzaine de Roland-Garros. Est-ce que le problème aussi pour ces jeunes Français, c'est pas de confirmer, c'est de rééditer ce genre de performance à chaque fois et à chaque tournoi de Roland-Garros chaque année?
Si, ça c'est certain, effectivement. C'est toujours la grande problématique de ce sport-là, c'est d'enchaîner les victoires en fait et
mmh. Et de rester dedans quoi, de
exactement.
Rester concentré dans leur sujet.
Et c'est vrai que bon cette année mon fils a fait un tournoi tout à fait remarquable quoi. C'est, mmh. Il a réussi à enchaîner tous des matchs et les victoires qu'il a eu aussi bien contre Ljubicic que Ferrer, alors qu'il partait pas du tout gagnant. Ont été extraordinaires.
Comment vous avez trouvé cette quinzaine? Vous y êtes allé, hein, je crois.
Le premier week-end, oui, tout à fait, oui. Donc, oui. Bon, on a été le premier week-end. Eux aussi ont eu des soucis avec la météo.
Oui, c'est vrai que.
Mais c'est bon, c'est la vie des tournois en découvert.
Un Roland-Garros sans pluie, c'est rare quand même. Hein.
Il y en a eu, mais c'est vrai, depuis quelques années, on est un petit peu ennuyé.
Oui. Et donc.
Des beaux matchs. J'ai eu l'occasion de voir des matchs de Federer, de Djokovic, mm-hmm. et bon, malheureusement pas Gasquet, mais ouais. Bon, il y avait Sierra qui était fait un très très bon match également. Quoi.
Ouais, vous n'avez pas vu les adieux de Quartin?
Non. Ouais, malheureusement pas, ça devait être assez émouvant, je pense, sur le court. Mm-hmm.
Alors, Hervé, on en parlait hein, avant cette émission. Le plus dur pour les Français, c'est de rester dedans. Parce que c'est vrai que quand on fait du tennis de haut niveau, c'est pratiquement comme tous les sports, mais on pense, on vit, on mange tennis pendant 15 ans, 20 ans, et puis parfois, c'est difficile. Hein.
Ah ben c'est toute la problématique des grands sportifs. Bon, faut quand même pas oublier de rappeler non plus que on a le plus de joueurs qui sont français dans les 100 premiers mondiaux actuels. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose, on ne dit pas assez. Mm-hmm. Et ça, je crois que c'est très encourageant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros travail de la Fédération française de tennis. Et je crois que c'est ça qui va faire que effectivement on va pouvoir continuer à progresser. On le voit bien dans les Coupes Davis à chaque fois. Bon, même si on fait.
Enfin, les Coupes Davis, on est un petit peu en dedans depuis quelques temps.
Oui, on
quand
se fait
même,
taper, mais je veux dire, bon, ça manque pas de beaucoup, quoi. Donc, je veux dire, on sent vraiment qu'il y a un potentiel. Les jeunes, les anciens, je pense qu'il y a une bonne osmose. Là, Guy Forget s'est lié un peu les deux, justement.
Il n'a pas été contesté à un moment, Forget?
Ouais, non, mais il y a toujours des choix à faire. C'est ça, c'est le problème du capital là. Ça peut être ça dans le tennis, dans le foot, dans n'importe quoi. Mais non, je pense que on est dans une bonne dynamique et je pense que ça va forcément payer. Faut rappeler quand même que Gasquet, il est quand même le numéro 9 mondial. Je veux dire, non, c'est quand même pas banal.
Mm-hmm. Alors justement, mon fils en demi-finale, on l'a dit, Tonga était arrivé en finale de Melbourne. On a eu aussi l'année dernière Bartoli en finale de Wimbledon. Grosjean était aussi arrivé en demi-finale de Roland-Garros en demi. Et puis après, il y a des problèmes, il y a des difficultés pour rester constant. Est-ce que c'est pas là le gros problème du tennis français, la grosse problématique? Et est-ce que ça va pas être le problème de Gaël Monfils, quoi? Le plus dur commence.
Mais la constance, c'est ça. C'est pourquoi Federer est numéro un, parce que il a réussi à se hisser. Il a pas eu de problème physique. C'est de l'entraînement. C'est toutes ces choses là. Il y a beaucoup de très grands joueurs qui pourraient être dans les 10 premiers, dans les 2-3 premiers même. Et il y a énormément de problèmes physiques. Le tennis moderne a évolué et ça devient très physique. Et c'est une demande d'énergie, de débauche, de volonté tout au long de l'année. C'est pour ça qu'ils sont au niveau du planning qu'ils ont annuel, c'est très concentré, il y a énormément de choses, et donc forcément c'est des fois ça casse un peu, et après si on n'est pas constant effectivement sur l'année, Federer a réussi sans gagner Roland Garros et autres, mais il a réussi toujours à être dans des demi-finales, des finales, et c'est ça qui fait qu'il est numéro 1. Mm-hmm. Après faut éviter la casse le plus possible.
Oui, le modèle, on disait que c'était Sampras hein, qui est su rester constamment présent, motivé, qui est le plus beau palmarès pour l'instant du tennis mondial.
Oui.
Et puis chez les femmes, c'est pareil, hein. Mauresmo, Pierce, Bartoli maintenant, c'est le même problème, cette inconstance, pas une femme au stade des huitièmes de finale.
Alors là, bon.
Hein?
C'est le même phénomène.
Alors Christian, je suppose qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous partagez l'opinion d'Hervé Guérin, Christian, lui qui est assez optimiste, un Français en demi-finale, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt?
Bon, moi je reprendrai les choses dans un ordre micro, différent. Ça. Et ouais. Je pense qu'il faut, si l'on veut percevoir les choses, la réalité des choses, il faut reprendre les choses à l'envers. Monsieur le Président de Cernay-la-Ville, vous avez dit l'objectif majeur, c'était Roland-Garros. D'accord ? Je rappellerai l'objectif de la Fédération française de tennis et du tennis français en général. Qu'un joueur succède à Yannick Noah et gagne enfin le tournoi de Roland-Garros. Ça, c'est l'obsession des présidents.
Même c'est l'icône, c'est le reflet
voilà,
pour tous les
pays. L'objectif, c'est ça fait 25 ans, depuis 1983 qu'on n'a pas gagné Roland-Garros, et ça a des retombées médiatiques, financières, etc.
On parle jamais autant de tennis que pendant Roland-Garros. Quoi.
Sur le tennis, bah oui. Voilà. Donc, tant que cet objectif ne sera pas atteint, eh bien, on pourra palabrer, on pourra s'enflammer, dire que mon fils est arrivé en demi-finale. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, en effet.
Oui, oui, oui.
C'est pas parce que mon fils est arrivé en demi-finale que l'objectif est atteint. Bon, donc, on s'en rapproche. Mon fils est arrivé en demi-finale, c'est bien. Il y a du Tsonga dans ce mon fils. Mais tout reste à faire. Alors, par rapport aux internationaux, on peut dire ceci. La nature a horreur du vide. En effet, au départ des internationaux, Gasquet était mal en pointe, Tsonga en difficulté, opération.
Mal en pointe psychologiquement, peut-être Gasquet aussi. Hein.
Oui, bon.
Certains disent qu'il aura attrapé la bonbonne, comme on dit.
Bon, voilà. Et même Noah, de son pessimisme, hein. Il affirmait, je pense que cette année, c'est mal parti. Bon, je cite l'équipe. Hein. Et puis, il y a eu cette embellie. Beneteau, mon fils, Yodra, Mathieu, Chardy, un huitième de finale. Oui. Bon, c'était pas arrivé depuis très longtemps.
Oui, je crois depuis 74, hein, je crois.
Ouais. Depuis, oui, ouais. Hein, exactement.
Voilà.
Donc, une embellie, mais à confirmer. Alors, par contre, on ne peut pas en dire autant du tennis féminin.
Ah non, non, là, hein, c'est le vide, c'est le creux, là.
Aucune fille, aucune représentante à huitième de finale.
Ça aussi, c'est record. Hein.
Voilà, Amélie Mauresmo, battue au deuxième tour par l'inconnu espagnol Suárez Navarro. Mmh.
On s'y attendait un peu, quand même, Mauresmo. Elle est convalescente, quand même.
On s'y attendait un peu, oui, mais enfin, bon, c'est quand même la représentante française numéro 1. Hein. C'est... Mmh. Celle qui, à Roland-Garros, devait faire ses preuves, hein, parce qu'elle a toujours été en difficulté.
On va rappeler, Christian, que la dernière Française quand même vainqueur à Roland-Garros, c'est Marie Pierce, en 2000, hein, quand même. Hein.
Marie Pierce, bon.
On parle de Noah chez les hommes, mais il y a Pierce quand même qui a gagné en 2000 chez les femmes.
Voilà, donc une éclaircie chez les messieurs, et chez les dames, par contre, beaucoup de difficultés. Alors, les conclusions que l'on peut tirer par rapport, déjà, à cette quinzaine. C'est place aux jeunes. Si vous prenez finale dame, Anna Ivanovic, 20 ans. Safina Dinara, 22 ans. Demi-finaliste, Jankovic, 23 ans. Kuznetsova, 22 ans. Et si vous, si on prend en considération la grande espoir, Vaidisova, 19 ans. Cornet, 18 ans. Donc vous voyez, c'est place aux jeunes. La terre battue ne fait pas de concession. À partir d'un certain âge, on ne tient plus la route. Si vous prenez dernier carré, messieurs, bien sûr, Federer, c'est le vétéran, 26 ans. Mon fils, 21 ans. Djokovic, 21 ans. Nadal, 22 ans. Sans oublier Chardy, 21 ans. Et Nicolas Almagro, 22 ans. Donc, place aux jeunes.
Donc c'est fini l'époque des Orantes qui jouaient par exemple très vieux sur terre battue, voilà. Et qui étaient capables de venir en Langarou.
L'archétype.
C'est fini ça.
Bon, c'est
Gavilas.
Loubsichik.
Ouais.
Bon, vous avez vu, hein, qui se traîne. Bon, Ewitt, qui malgré toute sa détermination, sa volonté, n'arrive plus à finaliser les matchs. Passé un certain âge, bon, c'est fini. La terre battue est tellement exigeante que les joueurs, à partir de 27-28 ans, n'y arrivent plus. Bon, donc place aux jeunes, et je dirais une chose, c'est en corrélation, place aux joueurs grands et aux grands athlètes. Si vous prenez les messieurs, Djokovic, 1m87. Nadal, 1m85. Mon fils, 1,93. Federer, 1,85. Dame, Ivanovic, 1,85. Sharapova, 1,88. Safina, 1,82. Mm-hmm. Djankovic, 1,77. Vaidisova, plus d'un 80. Mm-hmm. Donc, vous voyez déjà dans quel sens il faut orienter le tennis français. Alors, bien sûr, je ne parle pas des clubs ici, hein, parce que il faut distinguer le tennis loisir, le tennis de compétition et le tennis de haute compétition. Les clubs ne sont pas un tennis de haute compétition.
Non, mais enfin, pour faire de la haute compétition, il faut déjà faire la compétition.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Il faut quand même.
Pas du tout.
Il faut quand même passer par
la compétition. Ah bon, c'est pas parce qu'on a une marge très large qu'on va avoir des champions. Ce serait trop facile. Le champion, il faut le détecter. Il faut avoir des critères de sélection. Il faut le placer dans des structures particulières pour qu'il devienne champion.
Oui,
mais le champion a des caractéristiques particulières.
Bien sûr.
Bon, que le club local ne peut pas produire. Alors, et construire.
On va demander donc l'avis à deux présidents, François, les conclusions de notre ami Christian. Il faut déjà commencer par la compétition pour avant de devenir un grand champion. Qu'est-ce que vous en pensez des conclusions et des stats quand même assez édifiantes de notre ami Christian?
Bah, au niveau des stats, il n'y a rien à dire. Hein. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Ça, c'est clair effectivement que sur à partir des quarts de finale, on voit effectivement que sont les grands joueurs. Parlant d'un point de vue physique, on va dire, hein, donc qui prédomine. Maintenant, au niveau des clubs, c'est sûr que on démarre effectivement par motiver, avant même la compétition, faire aimer le tennis en fait aux jeunes.
Prendre du plaisir sur un coup.
Ouais. C'est vraiment l'étape numéro un, notre priorité à nous. Mm-hmm. D'abord, ça les fidélise, bien évidemment, et surtout, ça leur donne envie de continuer, ça leur donne envie de prendre du plaisir. Un joueur qui prend pas plaisir sur un court n'arrivera jamais à faire de bons résultats. On fait pas du tennis contre sa volonté, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il ait envie de se faire plaisir. Et à partir de là, on a envie de se faire plaisir, on a envie, effectivement, de progresser. Et c'est toute la motivation qui suit, quoi.
Oui, mais justement, quand on en parlait avec Hervé, des heures et des heures de tennis, qu'on vit 8 heures par jour dans le tennis, est-ce que cette notion de plaisir, on finit par la conserver, par la garder? Est-ce que c'est pas ça la différence? Est-ce qu'on ne devient pas des automates, des métronomes?
Je pense pas. Donc le tennis est un sport qui au début est ingrat. Avant de savoir faire un revers qui retombe dans le court, c'est quelque chose de très difficile, ça prend du temps. C'est plus compliqué que de taper dans un ballon ou faire du foot. J'aime beaucoup le foot, mais c'est vrai que c'est moins ingrat au démarrage.
Bah, c'est un sport individuel,
voilà, exactement.
C'est un sport court.
Et donc vous êtes tout seul sur un court, et donc effectivement il faut beaucoup d'acharnement et il faut beaucoup d'heures passées sur le court pour pouvoir progresser. Mais les résultats en compétition viennent d'abord par le plaisir qu'on rencontre, et je pense que faut pouvoir motiver les gens et leur apporter des structures qui vont bien, si je veux dire.
Et on le voit, le jeune qui dès le départ est un peu plus mordu, un peu plus un peu plus plaisir, ou alors ça vient comme ça au fil des années.
Tout à fait. J'ai eu hier la chance, à notre tournoi Open, de voir on a un joueur, un compétiteur de 12 ans qui vient de Limours. J'ai plus son nom en tête, malheureusement. Il est classé 15-4. Il a joué contre un joueur qui avait une trentaine d'années, on va dire. Et j'étais ébloui par son jeu. Bien évidemment, physiquement, ses balles manquent de puissance, mais à 12 ans, c'est tout à fait normal.
Ça va arriver,
mais une intelligence de jeu, il faisait toujours le coup juste, au bon moment, je veux dire. Et il a perdu en 3-7, très 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 accroché. Et c'était vraiment un match remarquable. Et avec un jeune de cet âge-là qui a gardé son calme pendant toute la partie, qui s'est jamais énervé, jamais affolé, jamais, je trouvais ça extraordinaire.
Ouais, donc il y a un potentiel.
Absolument. Ce jeune-là, bon, malheureusement, il n'est pas à Cernay, il est à Limours, mais clairement, il a un avenir devant lui qui est tout dessiné, quoi. Ça.
Hervé,
j'ai failli bondir là, un millième
c'est
de seconde.
C'est bien, c'est ça la radio, c'est ça nos émissions.
J'ai failli remettre les clés du club de tennis. Non, je crois que c'est vrai que le haut niveau, au niveau de la des détections des jeunes dans les clubs, quand on voit un jeune qui arrive qui veut se mettre au tennis, et les bons professeurs le voient tout de suite dans l'année, dans la mm-hmm. semaine qui vient, les premières balles, on voit tout de suite qu'il y a un potentiel.
Ouais, celui qui est un peu plus doué que les autres, quoi, le toucher de balle, tout ça, quoi.
Complètement. Ah, ouais. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, si on a les structures pour pouvoir le faire produire, enfin continuer et que ça puisse produire du bon tennis, c'est une très bonne chose. Mais effectivement, au niveau de nos petits clubs, c'est limité. Ils sont tout de suite pris par soit la ligue, soit la fédération après. Et bon, bah c'est le jeu aussi. Hein. On peut pas, mm-hmm. on peut guère faire autrement.
Et on voit le mental aussi, celui qui a plus cette niaque, cette hargne.
Oui, c'est un ensemble. Ouais. Je veux dire, c'est cette volonté, c'est vraiment la passion. Ouais, moi, j'en ai vu plusieurs. On avait un des derniers tournois qu'on avait fait au Perel il y a quelques temps. Effectivement, c'était encore un jeune de 12 ans mm-hmm. Qui se trouve en finale contre un autre de 15-1, donc il était 15-2, l'autre finaliste était 15-1, et ben voilà, le 30 ans, pleine force de l'âge et tout, service volé, et ben non, c'est le petit de 12 ans qui a gagné. Mm-hmm. Mais ça, c'est ça le tennis aussi, quoi.
Christian, cette notion de plaisir, quand on fait du tennis comme ça, 8 à 10 heures par jour, on peut finir par la conserver, parce que c'est ça qui fait qu'à un moment, un certain lâche, quoi.
Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça.
Non, mais c'est très bien, c'est bon, ça nos émissions. C'est
je vais
ça,
vous
la radio.
Dire, le plaisir, bon, bien sûr, il doit venir à un moment donné. S'il n'y a plus de plaisir, bon,
c'est ce qui fait
il doit plus y avoir de jeu.
Ouais.
Mais je me référerai à cette analyse philosophique du sport. Il y a le sport loisir, le sport de compétition qui est conduit dans les clubs, et le sport de haute compétition. Mmh. Si on ne différencie pas ces choses-là, on mélange tout.
Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive au sport
de
haute compétition? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à haute compétition?
Je vais vous citer. Chez Lena Jankovic. Ouais. J'ai le killer instinct. Sur le court, je considère le tennis plus comme une guerre que comme un jeu.
Ouais.
Le problème est le suivant. À haut niveau, et je différencie tennis de compétition, tennis de haute compétition, lorsqu'on perd un point, ça doit être dramatique. Mm-hmm. C'est pas du plaisir, c'est dramatique de perdre un point. Federer a failli perdre sur des balles faciles, des volées de revers, et il a failli perdre le match finalement contre mon fils.
Oh, c'est vrai qu'il a pas été aussi bon que d'habitude.
L'important, c'est gagner point par point avec une volonté exacerbée et en se faisant mal sur soi-même. Mm-hmm. Alors bien sûr, il y a le plaisir, mais c'est le plaisir de la victoire, c'est le plaisir d'être sur le court dans un environnement particulier. Mais dans les clubs, bon, au ras de terre, hein, bon, c'est bien sûr, il faut amener les enfants à jouer en compétition et avec le plaisir aussi, parce qu'ils sont mm-hmm. pas là aussi pour devenir des tueurs. Hein.
Mm-hmm. Mais bon. Justement, est-ce que ce plaisir, ça fait pas aller encore plus loin dans la souffrance?
Non.
Est-ce que c'est pas ça qui fait la différence?
Moi, je ne pense pas du tout.
Non.
Je pense pas du tout. Il faut avoir cette volonté exacerbée de gagner des matchs. Mmh. Et ça se travaille. C'est de la psychologie, du conditionnement. Hein. C'est en étant placé dans des situations de plus en plus difficiles, de plus en plus contraignante, qu'on arrive à ça. C'est par la souffrance qu'on arrive au plus haut niveau. Tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, on sera à côté de la plaque. Quand j'entends des gens le dire, il faut qu'ils libèrent ses émotions, il faut qu'ils prennent du plaisir, c'est complètement à côté de la plaque.
Pourtant, Noah l'a dit. Hein.
Des
pourtant,
commentaires.
Noah l'a dit. Hein. Noah l'a dit hein.
Oui, mais c'est pas parce que Noah... hein, parce que Noah dit des choses qui... lorsque Noah dit, écoutez bien ceci, il faut des gens qui aient faim. Est-ce que Noah a eu un jour faim? Je pose la question, c'est un anti. Si vous prenez Ivan Isevich, Ivanovic, bon, beaucoup de joueurs, ça fait partie de la crème dans les sociétés où ils sont. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on a faim qu'on va gagner. Regardez, Amélie Mauresbon a gagné, elle n'a jamais eu faim. C'est pas parce qu'on a faim et on est mort de faim qu'on va gagner des matchs. C'est une volonté exacerbée, c'est des conditions environnementales, psychologiques, humaines, qui font que on peut devenir champion au plus haut niveau. Mm-hmm. Alors, bien sûr, c'est pas les clubs. Hein. Les clubs, bon, sont là pour organiser la compétition.
Maximum, hein.
Mais au niveau des ligues, ça devient dramatique lorsqu'on a le 10e résultat national. Moi, je ne me féliciterai pas qu'on est 16e il y a deux ans et 10e. Non, non, mais en ayant les meilleures installations, en ayant une grande population tennistique et tout ça, c'est que les choses ne vont pas dans le bon sens.
Non. Et ce qui est quand même incroyable, on en parlait aussi avant cette émission, c'est que vous avez décelé techniquement beaucoup de lacunes chez Mauresmo et chez Cornet. Hein. Je crois que voilà. Dans son service, notamment à l'île de Cornet.
Alors,
hein.
Je continue. Oui, deux minutes. Ah, mais... l'analyse. Hein, bon, il faut des gens qui sont jeunes, il faut des joueurs grands. Oui. Et joueuses, hein. Et l'importance toujours croissante du service, et en particulier des premières balles.
Voilà.
Pour être dans le tempo, dans les meilleurs mondiaux, il faut servir minimum 190 km à l'heure, minimum, et avoir 70% de premières balles. Je vous prends un exemple, et des chiffres clés en main. Si l'on prend l'analyse du match Federer-Monfils, Federer, 71% au premier service, Monfils, 59%. Coup gagnant, Federer, 60%. Monfils, 51%. Faute directe, Federer, 30%. Monfils, 40%. Vous avez le résultat du match, là. Mm-hmm. Le match, il est là. Donc, voyez l'importance des premières balles. Lorsque vous avez un joueur comme Ferrer, qui sert à maximum à 180 km à l'heure, bien, au bout d'un moment, il est hors jeu. Et c'est normal que Monfils ait battu Ferrer. Même avec Ferrer, joueur type terre battue, mais il a explosé physiquement. Donc, je répète depuis X années et dans mes livres, puisque j'ai écrit Les fondamentaux du tennis,
ouais, hein, vous étiez venu en parler,
bon,
d'ailleurs,
que dans l'enseignement, ce qui était fondamental, capital, le service, les services et les retours de service. Le jeu commence par service et retour de service. Et c'est pas la peine de faire des balles X temps, bon, sans travailler, service et retour de service.
C'est plus du service à la cuillère comme Chang.
Ah oui, 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 tout à fait. Alors, dans le cadre de cette évolution, si l'on veut être exhaustif, hein, ouais. Le tennis masculin est complètement différent du tennis féminin. Tout au moins sur la terre battue. Hein.
Bien sûr.
Ce n'est plus du tout le même jeu. Bon, on peut noter à cet égard qu'Anna Ivanovic et Dianara Safina sont parmi les meilleures serveuses du circuit. Et pourquoi ? Elles se retrouvent en finale. Mm-hmm. Mais vous avez Demen Tieva, par exemple, qui a bien progressé au service, mais qui est très faible, encore en deuxième balle. Donc, contre Safina, elle a calé. Hein. Elle prend 6-0 quand même au troisième. Hein. Mm-hmm. Bien qu'il y ait eu une balle de match, mais avec la fatigue, ces deuxièmes balles devenant de plus en plus courtes, elle a donné des possibilités à Safina d'attaquer. Mmh. Donc, voyez l'importance capitale du service aujourd'hui. Et si on ne le replace pas dans l'enseignement, eh bien, au bout d'un moment, on n'aura pas. Si on n'a pas des joueurs jeunes, si on n'a pas des joueurs grands, athlétiques, si on n'a pas de bons serveurs, eh bien, on n'aura pas les meilleurs joueurs.
Ouais, c'est pour ça que Cornet et Mauresmo hein, ont encore des lacunes. Hein,
Voilà. Alors, lorsque je vous parlais, on analyse un peu la technique d'aujourd'hui. Hein, et on peut voir que Alizé Cornet a un défaut technique très criant. Lequel ? Bon, nous avons discuté tout à l'heure. Si vous avez remarqué, si vous avez suivi les matchs, à la fin du service, elle se tape sur la jambe droite, sur le tibia. Ça veut dire qu'il y a une lacune technique. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avance pas. Si vous avancez dans le court après le service, vous ne pouvez pas vous taper sur la jambe. Mais si vous reculez, vous vous tapez sur la jambe. Bon, c'est un défaut très criant. Hein. Mm-hmm. C'est bon, évident. Si vous prenez, par exemple, Jérémy Chardy, on observe qu'il se désaxe, c'est-à-dire il serre dans une direction et il part de l'autre direction. Ça aussi, c'est un défaut. Bon, donc, vous voyez que tous ces joueurs ont beaucoup de travail à faire. Mm-hmm. Je prends l'exemple de Federer contre Monfils, qui manque deux ou trois volées de revers. Ces volées de revers avaient des pertes d'angle, c'est-à-dire il fait des chopes. Une volée, c'est une frappe, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, hein, c'est une frappe légèrement coupée. Avec trop de chopes, bon, on perd l'angle, c'est-à-dire que la raquette descend sous le poignet. Bon, même Federer, à son niveau, doit continuer à travailler sa perfection technique. Mmh. Mmh. Vous voyez, parce que ça entraîne des fautes au bout d'un moment. Alors, les joueurs français ont beaucoup de travail à faire. Et ce n'est pas parce que mon fils est arrivé en demi-finale que nous devons nous enflammer et nous aurons le champion de demain. Je vous prends l'équipe d'aujourd'hui. Chardy, le nez dans le gazon. Chardy qui a fait des exploits à Roland-Garros. Héros inattendu de Roland-Garros, il a été où il a éliminé deux têtes de série, dont Nalbandian, hein, quatrième joueur mondial, a été battu par le millième joueur mondial. Vous avez le papier sur l'équipe d'aujourd'hui. Donc, voyez que il y a une anomalie. Quand on bat Nalbandian, on ne se fait pas battre par le millième joueur mondial. Bon, donc, ça veut dire que Chardy a fait la fête. Pas possible. Mais non, mais on passe pas en 10 jours, on passe pas de battre un quatrième mondial et être battu par un millième joueur mondial.
Alors, François, Hervé, qu'est-ce que vous en pensez ? François ?
C'est sûr qu'il faut effectivement beaucoup de volonté, c'est un sport très difficile, comme j'ai déjà dit. Mais par contre, je reste quand même sur... Il y a effectivement plusieurs niveaux de maturité selon les objectifs qu'on se donne. Mais nous, notre politique, effectivement, est axée sur les jeunes. Et avant la compétition, c'est vraiment le plaisir qu'ils doivent avoir. Et la compétition vient ensuite, je ne sais pas dans un deuxième temps, mais dans une deuxième étape. Et là, effectivement, il faut de la volonté, avoir envie de gagner des matchs. Ça, c'est certain.
Hervé,
juste pour
toujours pas d'accord avec Christian.
Juste pour le français, il faut savoir qu'effectivement il s'est bloqué la hanche, donc c'est pour ça aussi que pour rebondir donc sur le ce que disait Christian au niveau du haut niveau. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. On le dit peut-être pas de la même façon, mais c'est sûr qu'au niveau de la volonté et autres, c'est beaucoup de travail, des choses comme ça. Donc là, il y a pas de problème à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faut, du travail.
Allez, la musique, et puis ensuite, on va déjà parler de... On va donner un petit pronostic sur la finale de cet après-midi, puis très brièvement revenir sur la victoire donc hier d'Ivanovic. Alors, on n'oubliera pas, François, au lendemain de la finale, ou la veille, plutôt de la finale du tournoi Open de Sarnay-la-Ville, il y aura le début du tournoi Open du tennis club de Rambouillet. Ça sera du 21 juin au 13 juillet. Donc, il y aura effectivement des différents matchs pour les catégories allant de 35 à 55 ans, et donc chez les hommes, et de 35 à 45 ans chez les dames. L'engagement est de 17€, 10€ pour la deuxième épreuve adulte et senior jeune, et puis on pourra gagner quand même 1380€ de dotation en espèces et 620€ de lot. Vous pouvez vous inscrire au 01 30 41 83 01 ou au 06 17 31 77 41. Donc on répète 01 30 41 83 01 ou 06 17 31 77 41. Alors, victoire d'Ivanovic hier, et puis aujourd'hui, Nadal va faire la passe de 4, messieurs.
Nadal, oui, je pense que moi, si Federer ne change pas un peu plus son jeu, ne se donne pas plus d'ouverture ou de choses comme ça, Nadal a une telle couverture sur le court que peut-être que Federer prendra un 7, peut-être 2, mais il y a une telle condition. C'est le seul quand même qui n'a perdu aucun set, qui n'a conservé aucun set.
Il est encore plus fort que l'année précédente.
Oui. Même s'il prend un peu de l'âge, mais je crois qu'il s'est encore affiné. Nadal, Federer aussi, mais voilà.
Ivanovic hier, victoire de la Serbe, elle est jolie en plus.
Oui, là, c'est très plaisant. Là, rien à dire, là, c'est j'irais presque logique.
François ?
Pour la victoire d'hier, oui, je pense effectivement Ivanovic a été remarquable, il n'y a rien à dire sur sa victoire, je crois, entièrement d'accord
avec lui. C'était son année, hein, quoi.
Oui, c'est clair que le retrait des nains a aidé aussi, il ne faut quand même pas l'oublier. Parce
Petite déception de ne pas l'avoir vu quand même, là, hein, ça s'est fait juste avant.
Oui, ça s'est effectivement déclaré ça une semaine avant, donc c'était un peu la surprise d'ailleurs. Côté homme, je partage pas entièrement l'avis d'Hervé.
Ah bon ? Il peut y avoir une surprise ?
Oui, je pense qu'il peut y avoir une surprise dans le sens où c'est une des premières années où j'ai eu l'impression que Federer savait s'économiser dans les matchs. et appuyer sur l'accélérateur quand il le fallait. Et en gros, dans tous les matchs, et on l'a vu avec mon fils, hein, quand il était en danger, il a su remettre de la vapeur pour aller gagner le dernier set très facilement. Donc, l'énergie qu'il a gagnée, je pense, peut-être servir aujourd'hui pour offrir une belle surprise.
Et Christian, pour conclure, donc 30 secondes.
Voilà, moi je dirais que nous allons assister au match le plus important de la décennie. Pourquoi ? Parce que soit Federer gagne Roland-Garros et ce sera le meilleur joueur de tous les temps, soit Nadal gagnera Roland-Garros et il battra le record de Borg. Moi je dirais que c'est l'année de Federer.
Il égalera le record de Borg.
Oui. Moi je dirais que c'est l'année de Federer ou jamais. Si Federer doit gagner Roland-Garros, c'est cette année. Sinon, il ne gagnera jamais. Parce que Nadal devient de plus en plus fort, son revers est encore meilleur, son service est encore meilleur. Donc, de plus en plus de difficultés.
Très bien, ça sera le mot de la fin. Hein, et puis, on parlera de tout cela donc, dans les semaines prochaines. Merci, messieurs, d'avoir été les invités de Tribune.